Oui, c'est sur cette question de la mixité et son émergence historique, là, vous disiez que c'était déjà dans le rapport de Godou quelque chose qui était considéré comme un bien. Pour autant, les quartiers populaires, avant les années 70, ils étaient populaires et pas forcément aussi hétérogènes qu'on pourrait, à contrario, penser du point de vue des catégories sociales qui reposaient. Il n'était pas vécu comme un souci. Donc moi, cette question de savoir, enfin, il y a une forme pour moi d'impensée dans le fait de considérer que la mixité est forcément un bien, et en plus qu'elle s'applique qu'au territoire populaire, parce que c'est quand même un vrai souci, bon, je vous apprends rien. Mais pourquoi c'est aux classes moyennes, enfin, je veux dire, ce serait dans ces quartiers qu'il faudrait qu'il y ait des classes moyennes blanches qui viennent et qu'on ne réfléchisse pas à la mixité un peu plus globalement. Bon, ça se fait. Mais pour moi, c'est plutôt, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impensé encore, au point de vue des politiques publiques, sur cette question de la mixité. Et puis le deuxième point sur lequel j'aurais souhaité que vous puissiez revenir, c'est à propos du débat sur l'ULIB. Il a réhabilité effectivement l'aspect question sociale. En étant complètement en phase avec vous sur l'articulation de la question des discriminations raciales et de la question des discriminations territoriales et sociales dans les quartiers, je m'interrogeais aussi, puisque vous en avez parlé à propos des quartiers, il y a des effets de discours, il y a des effets de politique, il y a des effets d'image, mais les effets du discours sur la discrimination, est-ce qu'ils ne vont pas contribuer du côté des petits blancs, dans le pays global, etc., renforcer aussi, et c'est ce que dit Guy, un sentiment d'insécurité culturelle. Et de ce point de vue-là, il y a aussi des effets de discours et de politique qui ne jouent pas que sur les quartiers, c'est-à-dire que le discours sur les discriminations, il a contribué aussi à un ressenti chez une part de la population pauvre, non discriminée, mais un ressenti victimaire. Il y a aussi une interrogation sur comment, effectivement, sans faire entrer en concurrence les différents types de pauvreté, ni les différents types de population, mais quand même une réflexion, et moi c'est ça que je trouve intéressant chez Gulli, une réflexion sur les effets du discours, je ne parle pas des politiques, hein, je parle plutôt du discours sur le vécu des discrimes, la nécessité de les combattre, etc. Du point de vue de la cohésion sociale d'ensemble. Voilà. Oui. Alors, sur cette question-là, juste quelques observations sur la question de la mixité, mais bon, je pense qu'on peut être d'accord sur les diagnostics. Les espaces les plus homogènes dans la ville, ce n'est pas les quartiers de la géographie prioritaire. Les espaces les plus homogènes d'un point de vue social, c'est là où habitent les plus riches. Les ghettos sont là. Là, tous les travaux qui ont été faits par les statisticiens il y a des années montrent bien.
Mais Vincent Charlot, le coup de l'attaque.
Oui, mais je parle aussi des travaux de Nicole Cabard, qui est une statisticienne de l'INSEE. Quand on travaille sur un indice d'homogénéité sociale ou d'hétérogénéité sociale, l'indice d'homogénéité sociale le plus élevé, il est dans les quartiers les plus riches. Voilà. Donc ça veut dire que on pourrait décrire aussi les quartiers de la géographie prioritaire comme des quartiers plus hétérogènes que la figure qui circule. Première observation. Deuxième observation, c'est vrai que la mixité sociale, elle pèse déjà sur les classes moyennes. C'est-à-dire là où il y a des classes moyennes, on est plutôt sur des espaces de la diversité. Donc il y a aussi un débat, c'est pourquoi faire reposer l'injonction à la mixité sur les classes moyennes qui, quand il y a mixité, l'assurent déjà. Enfin, ça, c'est un vrai, vrai débat. Sur la question que vous posez par rapport aux travaux de Guidi, effectivement, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'intérêt de son propos, c'est de dire, il y a des aides. Quand on regarde ce qu'est la pauvreté ou la précarité, il faut regarder ailleurs, indéniablement. Où je trouve ça dangereux, c'est que du coup, à une situation objective d'insécurisation sociale des strates populaires, ce qu'on appelle entre guillemets les petits blancs, bon, expression détestable, mais bon, qui est dans le langage courant. Ce qui est dangereux, c'est de dire la cause de votre insécurisation sociale qui est réelle. Peur du déclassement de certaines strates de couches moyennes, insécurisation par rapport aux enfants, etc. C'est, la cause, c'est les émigrés. C'est là où le problème.
J'en pense qu'il est beau aussi.
Alors,
c'est objectif.
Bon, mais c'est le discours de Guilly, c'est ça, c'est l'alliance objective entre les bobos défendant la cause des émigrés et une partie de la gauche emballant le tout. Voilà. Et que ça me paraît extrêmement dangereux parce que ça n'est pas juste, ça n'est pas la réalité. Ça n'est pas la réalité. Donc la question qui se pose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'on a un effort à faire pour dissocier d'une certaine manière, et c'est difficile parce qu'il y a une zone de recouvrement importante, la question des politiques sociales qui visent à lutter contre la pauvreté et la précarité. La précarité aujourd'hui, c'est aussi l'expérience d'un certain nombre de jeunes, y compris très diplômés. C'est le problème de la transformation des modèles de travail, du statut du travail, etc. Et puis une autre question qui est celle de la discrimination. Et là, il faut qu'on s'entende. Alors moi, je ne vais pas revenir sur, y compris l'histoire de cette question de la discrimination, mais qui suppose de revenir aussi sur le passé colonial. Enfin, ça, c'est des choses qui sont quand même dites, qui ont été explicitées, et qui est une dimension aussi à prendre en considération.
Oui, alors, on va faire comme ça, voilà, de gauche à droite.
Alors c'est moi.
Ah pardon. On va en faire le tour. Il marche pas comme il faut ?
Si, ça marche. Moi je voulais revenir sur la question de la mixité à l'école. C'est un sujet qui a fait débat aussi, notamment à la rentrée. Et hier justement je lisais un article dans Le Monde sur la question de la mixité au sein de l'Académie de Créteil, et notamment sur le département de la Seine-Saint-Denis, et donc sur le fait que c'était une des académies où on recrutait le plus de profs, mais aussi où c'était l'académie, justement il y avait plus de besoins, mais c'était celle aussi où c'était plus facile d'accéder en fait au concours de professeurs, et donc avec un niveau d'exigence moindre. Je crois qu'il y avait 60% de retenue et que la note moyenne, c'était, au plancher, c'était 6 sur 20, enfin bref. Donc ça pose la question de la formation des profs, et aussi la question aussi de leur intérêt à intervenir sur le territoire, puisqu'il y en avait pour beaucoup, d'après l'article, c'était donc pas mal de personnes qui venaient de province. C'était un moyen de rentrer dans l'éducation nationale, mais leur premier objectif, c'était de pouvoir retourner chez eux et donc de jouer sur les questions de rapprochement de conjoint ou autre. Donc au final, ça soulève la question aussi de l'éducation dans ces territoires et de la mixité aussi. Donc c'était un des points soulevés. Il y avait une très faible mixité et un des points qui était soulevé aussi, c'était sur la mise en place des zones d'éducation prioritaire qui auraient fait fuir les classes moyennes de ces territoires. Donc je voulais avoir aussi votre regard sur ce point-là.
Merci. Tu veux, c'est peut-être mieux non, de prendre plusieurs questions. Alors je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait.
Oui.
Bah, tu sais, là, ouais, vas-y, on continue comme ça. Voilà.
Oui.
Tu peux dire juste pendant d'où tu parlais, d'où tu parles toi.
Donc, je vais te dire donc, de SNCF Réseau, et entre autres habitants de Seine-Saint-Denis.
Et Olivier Collet, je suis journaliste. Au début, je vous ai écouté, j'ai eu l'impression que la politique de la ville avançait avec d'un côté les élections, d'un autre côté les émeutes. Et puis, vous n'avez pas parlé de 2005, ça m'a étonné, je me suis dit, non, je ne me suis pas trompé, c'est pas du tout ça. Et en même temps, je me suis rappelé que 77, les premiers rodéos, les premières voitures brûlées, c'est, je crois que c'est Villeurbanne, 76, chose comme ça. Donc je voulais savoir si il y avait, quel impact les émeutes ont eu sur la politique de la ville, s'il y a une lecture possible à partir de ça. Voilà.
Oui, Jean Guiret, élu local. C'est bref. Hein.
Oui, c'est bien.
Bon, on observe un petit peu à travers votre discours une succession de sparadraps qui sont tous plus ou moins en échec depuis 40 ans. Un échec depuis 40 ans parce qu'on a le sentiment que tout le discours et toutes les procédures se font sur une gestion de stock, de la pauvreté, de la discrimination, et non pas sur les questions de flux. Or, dans un pays dans lequel l'économie n'est pas très forte, comment intégrer une population qui arrive ici, forcément, pas en situation économique favorable? Donc, il y a un discours également que... Deuxième observation, c'est qu'il y a un discours sur la discrimination qui finit par être très agaçant parce que je me sens l'accusé blanc. Et qu'à un moment donné, il n'y a jamais un discours sur quel est le désir d'intégration et d'assimilation des populations immigrées. C'est-à-dire, quelle est la responsabilité de la population immigrée dans le choix de venir et de s'installer durablement en France. Par ailleurs, il y a bien des immigrés qui ont bien réussi à intégrer la société française sans qu'il ne soit aujourd'hui question, alors je pense tous les immigrés italiens, espagnols, etc., lesquels, voilà, ça ne passe pas, on n'a pas de... Donc moi j'aurais voulu savoir, dans ce discours, vous posez plus la question que vous n'offrez de pistes, quelle est la valeur du discours que l'on peut avoir sur la responsabilité elle-même des populations à qui on pense, nous en tant que donateurs, et non pas eux en tant qu'acteurs.
Oui, non, moi ce que je voulais, vous avez évoqué à un moment la rénovation urbaine a eu un impact positif sur l'amélioration du cadre de vie, mais est en échec sur le volet social. Je crois que le problème, c'est que souvent dans le débat sur la politique de la ville, on mélange les points de vue, on mélange un peu tout. Et du coup, moi je crois que la rénovation urbaine a eu un effet positif, celui qui était son objectif premier, c'est-à-dire l'amélioration du cadre de vie, mais que l'échec qu'il y a eu, c'est l'échec des politiques sociales qui ne se sont pas articulées à la rénovation urbaine. Et moi je dirais plutôt l'échec des CUX, qui avait une ambition extrêmement forte de justement de ce projet intégré des différents volets urbains, sociaux, etc., et qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, parce que du coup, il y a eu ce discours sur l'échec de l'ANRU, qui n'est pas l'échec de l'ANRU, qui était l'échec de la politique de la ville, parce que justement, on n'a pas peut-être agi sur ça, et qu'on a effectivement eu certainement une ambition trop forte au départ sur les objectifs de mixité, qui ne se sont pas réalisés, parce que effectivement, voilà. Ensuite, moi je crois que sur quand même cette mixité, il ne faut pas l'abandonner parce que le problème de ces quartiers, c'est la concentration de la pauvreté et avec ce volet aussi des inégalités sociales là-dessus effectivement, qui sont liées à un échec de l'intégration de diverses vagues d'immigration finalement. On est dans un échec total de l'intégration. Donc tout ça... Plus une concentration de la pauvreté, ça génère des dysfonctionnements urbains et sociaux qui sont très visibles, alors qu'ils ne le sont pas du tout dans, effectivement, dans les ghettos de riches, où la mixité n'a pas lieu d'être, parce que finalement, socialement, ça ne génère pas de dysfonctionnement. C'est pour ça qu'on ne l'impose pas ailleurs, quoique quand on essaie de l'imposer, comme ça a été le cas avec ce centre d'hébergement pour les migrants, ils se défendent par contre. Hein, voilà, donc on a vu ce que ça donnait, des limites effectivement d'imposer la mixité sociale n'a pas vraiment de sens. Donc c'est bien en travaillant notamment sur l'amélioration du cadre de vie qu'on peut quand même faire venir un tout petit peu de mixité. Moi je crois qu'il est quand même nécessaire parce que quand même l'hyperconcentration de la pauvreté comme elle est aujourd'hui dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'est ça qui génère des inégalités encore plus fortes. des problèmes d'accession au social, et puis également, qui est un terreau très favorable pour, par exemple, développer les trafics de drogue. Je veux dire, des jeunes désespérés, des jeunes qui n'ont pas de perspective, qui sont en échec scolaire, etc., quand même un terreau favorable pour justement aller dans une surenchère des inégalités sociales et des problèmes de dysfonctionnements sociaux. Donc,
J'ai noté deux interventions, mais je vous propose que voilà, Marie-Christine fasse déjà une réponse, parce qu'il y a un menu qui est assez copieux.
Oui, exact. Sur la lecture de l'histoire de la politique de la ville, en prenant comme référence les changements politiques et les émeutes, oui, bien sûr. C'est-à-dire, je crois que je l'ai dit, peut-être pas assez. Au fond, ce qui a produit à chaque fois la survenue d'une émeute ou d'un phénomène émeutier dans les quartiers, c'est le rabattement sur la question du quartier. Alors, on le voit chaque fois. Le mât du taureau, le mât du taureau, c'est emblématique de ça. On était à un moment où on est plutôt sur la réflexion, une politique globale à l'échelle de POF, il y a un quartier qui s'embrase à Bois-en-Velin, qui est un quartier qui est considéré en plus comme un quartier où on a réussi le DSQ, et paf, on revient à la politique de quartier. Donc oui, il y a cette lecture-là qui a été faite par un certain nombre d'auteurs. Changement politique, dans la frise que je vous ai envoyée, je la fais jouer chaque fois, on peut la faire jouer chaque fois. Du côté des émeutes, indéniablement, 2005, etc.
Je peux juste rajouter en complément, c'est que 2005 a eu un impact très clair, sauf erreur de ma part, sur les politiques de rénovation urbaine, qui originellement était quand même plutôt prévue pour être contractualisée avec les intercommunalités, et qui, d'une certaine manière, parce que les maires se sont retrouvés en première ligne, ou certains maires se sont retrouvés en première ligne lors des émeutes de 2005, a finalement été contractualisé avec les communes sur le mode d'une espèce de récompense-reconnaissance de l'élu de proximité dans cette logique de gestion de crise.
Ça a permis aussi de doubler l'enveloppe.
Voilà. Et on peut imaginer un événement, une émeute, etc., reviennent dans l'histoire à venir et qu'on observe ce même rabattement et retour sur la question à la fois du quartier et de la sécurité. Sur la question de la mixité, moi je peux être d'accord avec ce que vous avez dit. C'est une chose de dire, alors je reviens sur le bilan, je l'ai dit, l'ANRU, on ne peut pas être sur un bilan échec. Effectivement, les programmes de rénovation ont transformé les quartiers. Là où il y a échec, c'est sur la question de la mixité. Mais mon point de vue, je l'ai déjà dit, l'enjeu de la mixité, il n'est pas dans les quartiers. C'est-à-dire que l'enjeu de la mixité dans les quartiers, il est interdépendant de la mixité ailleurs. C'est-à-dire, tant qu'on est dans des agglomérations où les quartiers périurbains, la périphérie périurbaine d'accession à la propriété, les quartiers plutôt moyens-riches, lutte contre l'arrivée de logements sociaux destinés, encore une fois, de logements sociaux au bon marché, il n'y a pas de mixité possible. C'est-à-dire, inévitablement, les quartiers sont destinés à accueillir les plus précaires et les plus pauvres. Ce qu'on observe partout, moi, ce que je vois, mais depuis, je vais dire, 15 ans, 20 ans, c'est ça, c'est un quartier, une commune qui se mobilise, les riverains se mobilisent contre un programme de logement social ou qui accepte un programme de logement social sur l'enjeu du peuplement. C'est-à-dire, oui, on peut accepter du logement social, mais simplement, l'enjeu, c'est celui du peuplement. Donc, voilà, et on sait comment se jouent à bas bruit des négociations entre collectivités et bailleurs pour que arrivent là nos pauvres, les nôtres, et pas ceux d'ailleurs. Donc on voit bien que la question de la mixité dans les quartiers, elle est intimement liée à la question de la solidarité, de la capacité à développer des politiques de solidarité à l'échelle métropolitaine. Et l'intérêt de porter la question de la politique de la ville à cette échelle-là, c'est de poser cette question-là. Cette question, elle reste encore une fois aujourd'hui posée. Moi, je suis sollicitée par des maires de communes pour aller débattre de ces questions face à des riverains qui disent « pas chez moi, à côté, ou chez moi, mais à condition que… » Donc voilà. Donc, j'entends bien la question de ne pas renoncer à la question de la diversité, mais en étant au clair sur le fait qu'elle ne se joue pas aujourd'hui dans les quartiers, qu'elle se joue à une autre échelle. Voilà.
Juste une incidence, je crois qu'on est au cœur de la question. L'aménagement peut-il être démocratique? Ce que tu décris, c'est des formes de démocratie directe dans lesquelles les élus discutent ou négocient avec une partie de leur population. Et ce que tu dis à contrario, c'est que le passage à l'échelle de l'agglomération, qui aujourd'hui a ce grand avantage d'être à une institution élue au deuxième degré, finalement déconnecte, ou en tout cas éloigne le rapport direct à la population. En fait, au fond, tu es en train de dire, peut-être que je tire un peu, mais que l'aménagement du territoire dans cette logique-là ne devrait pas être si démocratique que ça.
En tout cas, la question est posée. La question est vraiment posée. Ça suppose, si on dit il faut rester sur un fonctionnement démocratique, ça suppose l'ouverture de ce que j'appelle moi des scènes de transactions sociales à l'échelle locale, où on est en capacité de montrer à ces gens qui ne veulent pas, par exemple, du logement social, qu'ils ont intérêt à y consentir. Parce qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être au nom d'intérêt général supérieur. C'est quel est l'intérêt que j'y ai moi ? Et donc ça veut dire faire ce travail-là politique qui consiste à dire acceptez-le parce que vous y avez un intérêt différé, pas forcément immédiat, différé. Donc là, il y a un vrai débat. Sinon, effectivement, sur la question de l'intérêt général, c'est-à-dire si on estime qu'il est de l'intérêt général d'aller vers des sociétés où l'organisation des territoires urbains obéit à un principe de diversité, oui, il faut le déconnecter. Ce débat-là, à mon sens, il est aujourd'hui absolument essentiel. C'est la question du consentement à la solidarité. Elle est posée aujourd'hui dans toutes les métropoles et je pense qu'on est sur une question de fond. Et que si effectivement on veut rester dans un fonctionnement démocratique qui réponde aussi à cette aspiration-là, alors il faut avoir le courage politique d'ouvrir des scènes de transactions sociales où se joue effectivement. J'apporte éventuellement une contrainte, parce que c'est vécu comme ça, le logement social peut être vécu comme une contrainte, ça modifie mon environnement, etc. Mais bon, quel est le bénéfice pour moi? Et cette transaction, elle est à construire politiquement.
C'est le rapport de l'Union européenne à la Hongrie, là, tu vois.
C'est un peu du. Alors, sur la question de la mixité sociale à l'école, alors moi, je partage évidemment l'observation. Il y a là une question névralgique. C'est-à-dire qu'on sait bien aujourd'hui qu'un des marqueurs des trajectoires résidentielles, c'est la question scolaire. Voilà, il y a un certain nombre de travaux qui l'ont fait et qui montrent quels effets ça a sur les valeurs immobilières. Moi, je pourrais raconter une petite anecdote toulousaine, mais bon. Il y a des travaux qui ont été faits sur Paris, l'effet du déplacement de la carte scolaire sur la transformation de la valeur des biens immobiliers. À Toulouse, un collège à côté d'un quartier Delta Social qui est en Palo, qui est un des quartiers historiques de la politique de la ville. Donc il y avait un collège accueillant une certaine diversité sociale. Bon, il s'avère que ce collège a perdu des effectifs et que le rectorat a décidé de modifier la carte scolaire. En modifiant la carte scolaire, il a inclus dans le périmètre de ce collège, accueillant donc des collégiens du quartier d'Ampalo, mais des collégiens du quartier voisin, quartier ordinaire, une partie d'un des quartiers de l'hypercentre toulousain qui s'appelle le quartier des Carmes. Eh bien, immédiatement, il y a eu une mobilisation des agents immobiliers ayant vu l'impact sur la valeur immobilière des biens. Et ça s'est fait
comme on fait, hein, sur un trait qui partage une rue en deux, côté père, côté impair. Donc oui, il y a une question là essentielle. Et on sait aujourd'hui, quand on travaille du côté des stratégies des ménages, que dans les stratégies résidentielles, la question de l'accès à la ressource, en particulier pour le collège, elle est effectivement vitale. Donc de ce point de vue-là, les politiques dites de ZEP, elles interrogent, elles n'ont pas permis de revenir à des situations de plus grande mixité, diversité, et par ailleurs, elles n'ont pas forcément permis de lutter contre l'échec scolaire, c'est ce que montrent les travaux récents. Donc, quelle solution ? Alors, quelle solution ? Celle qui s'expérimente aujourd'hui, aller au-delà de la question de la carte scolaire, ça veut dire aussi probablement sortir les collèges des quartiers. Rennerie, grand quartier historique de la politique de la ville, un collège au milieu du quartier qui perd des effectifs, parce que n'oublions pas que les habitants de ces quartiers participent aussi, comme tous les autres, de la volonté que leurs enfants réussissent, et quand ils ont les moyens, pas simplement financiers, mais les ressources sociales, ils sont aussi dans l'évasion scolaire, c'est-à-dire leurs enfants vont dans le privé, vont ailleurs. Donc effectivement, là, il y a une question tout à fait essentielle. Et ce qu'on observe quand même, c'est que sur la question scolaire, oui, elle est au cœur des stratégies résidentielles. Donc évidemment, c'est aussi des éléments qui participent à la non-mixité des quartiers. Parce que c'est, si j'accepte d'aller là, c'est où iront mes enfants. Alors, où j'ai une alternative scolaire, où je ne vais pas. On connaît bien, je pense que là, sur les terrains sur lesquels on est les uns et les autres, on pourrait le décrire. Sur la question que vous posez, l'échec sparadrap, non, pour moi, la politique de la ville, ce n'est pas ça. C'est une politique qui, depuis 30 ans, 40 ans, accompagne la transformation de la société française. C'est-à-dire que si on regarde ce qu'est la société française depuis 40 ans, elle se mondialise, il y a une montée de la sécurité sociale qui affecte différentiellement les différentes strates sociales, et au fond, la politique de la ville, elle a accompagné cette transformation-là. Donc c'est pas, je ne peux pas, moi, lire la politique de la ville sur le couple échec et politique sparadrap. C'est une politique dont l'enjeu a évolué au fur et à mesure où la société française s'est transformée. Ces 30 dernières années, passant d'une société du salariat, la société des 30 glorieuses, plein emploi, etc., encastrement plutôt bien heureux entre croissance économique et progrès social, à une société où il y a volonté des inégalités, où il y a mondialisation. Mondialisation, ça veut dire ouverture de la société, ça veut dire société effectivement de flux, société qui est aujourd'hui une société mondialisée, et puis une société où la question des protections sociales, du contrat social, où la question des inégalités, je l'ai dit, a ressurgi fortement. La politique de la ville, elle a accompagné. Son objet évolue aussi au fur et à mesure qu'évolue cette société. Et pour la question que vous posez de la question de la responsabilité des émigrés, il y a beaucoup de travaux. Hein. Je voudrais dire deux choses, moi, simplement. C'est que le discours qui est tenu aujourd'hui sur la question intégration-assimilation, puisqu'aujourd'hui le terme assimilation est revenu dans le débat public, ça vaut le coup de lire les travaux d'un historien qui s'appelle Gérard Noiriel, qui montre qu'à propos des Italiens, des Polonais, dans les années 20 et 30, le propos politique sur l'inassimilation étaient de même nature. Ils étaient catholiques romains, et néanmoins, ils étaient inassimilables. Donc ce que montre Noriel, c'est que ce discours sur l'intégration, l'assimilation, c'est-à-dire des populations qui ne sont pas intégrables, qui ne sont pas assimilables, parce qu'elles sont différentes, c'est un discours récurrent qui est apparu dans la société française à l'acmé du moment où cette société se rend compte que ceux-là qui viennent d'ailleurs resteront là. Et ce qu'il montre très très bien, c'est la répétition de ce phénomène-là dans la très très... Attendez, je vais jusqu'au bout.
Il ne veut pas poser des bombes, il ne veut pas poser des bombes.
Non mais ne confondons pas tout là. Enfin, je pense que là on est dans la... On est là dans la... Bon, je pense que ça vaut le coup quand même de se rendre compte de cette répétition. Par ailleurs, la société d'aujourd'hui, ses capacités d'intégration, en particulier économique, compte tenu de la transformation de l'emploi, sont pas tout à fait celles, effectivement, de la période des années 60. Ça, c'est aussi une réalité. Mais je pense pas qu'on puisse poser la question en termes de responsabilité, comme vous le faites. Quand on regarde, du point de vue là aussi, des trajectoires, d'abord, on oublie que la société française continue à avoir une capacité d'intégration, y compris d'assimilation, et qui n'est pas négligeable. Voilà, qui n'est pas négligeable. Il y a un certain nombre de taux là qui sont mobilisés chaque fois. Par exemple, sur le taux de mariage mixte, on sait que nous sommes, à l'échelle européenne, le pays probablement où ce taux-là est le plus élevé. C'est bien dire que le modèle n'a pas totalement disparu. Par contre, on est dans un contexte économique, politique et sociale d'une autre nature, donc qui pose effectivement d'autres types de problèmes. Et par ailleurs, dans une société totalement ouverte qui circule, quand on dit le village est une planète, ça veut dire aussi que on sait comment la question de la place, du statut de population immigrée dans d'autres pays se pose, et que du coup l'exigence française de l'assimilation, c'est-à-dire j'abandonne mes spécificités culturelles, mon identité culturelle pour rentrer dans une culture française, quand on est dans un pays où circulent en permanence d'autres modèles, effectivement ça rend peut-être là ce modèle plus difficile à mettre en œuvre, parce que la dimension de la comparaison avec ce qui se passe ailleurs est posée. Donc, la question est effectivement plus difficile qu'elle ne l'était dans les années 20 ou 30.
Christine, on prend deux dernières interventions. Et puis, une conclusion par la directrice.
Oui, donc, Mathieu Castillo. Je travaille au CGT en charge du suivi régional d'outils de contractualisation sur l'aménagement du territoire, sur les CPER, les pactes d'État métropole derniers ou les contrats de ruralité. Et je suis annexe de la politique de la ville en passage ministériel, puisque j'étais conseiller de François Lamy pour la mise en œuvre de la réforme de la politique de la ville. Et par ailleurs, j'ai une casquette d'élu local à Palaiso, ville qui est sortie de la politique de la ville avec la réforme de la ville. Juste, j'avais quelques éléments d'observation et deux sujets qui me tiennent à cœur, que vous avez relevés, qui sont importants d'insister, parce que l'historique que vous avez tracé, si on le prend tel quel, il est assez décourageant pour les acteurs des politiques publiques que nous sommes tous autour de cet hémicycle. Parce que effectivement, on pourrait voir que le petit bout de la lorgnette sur les avancées en la matière de politique de la ville, elles se sont faites que par à-coup, en fonction d'actualité ou de versatilité politique. Mais enfin, il y a quand même une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que cette politique publique n'engage que 400 millions d'euros. Parce que Philippe disait que c'est beaucoup d'argent, mais que 400 millions d'euros par rapport à d'autres crédits d'État qui sont dédiés sur des politiques publiques nationales, c'est peu. C'est, je crois, la politique publique la plus évaluée dans notre pays. En termes, vous l'avez dit, mais je réinsiste là-dessus, parce que le nombre de rapports et de personnes qui sont au chevet de la politique de la ville pour, dès qu'un dispositif est mis en place, l'évaluer, y compris 2 heures après son instauration, c'est quand même, par rapport à d'autres secteurs de la vie publique, c'est quand même assez hallucinant. Et pour avoir travaillé là-dessus, la profusion d'évaluations fait qu'on se demande pourquoi on n'évalue pas un certain nombre d'autres politiques publiques de la même manière, avec les mêmes ratios. Et la seule question d'évaluation sur la politique de la ville, c'est une chose, c'est que seraient devenus ces quartiers sans la politique de la ville. Et à ça, la réponse est serait encore plus sombrée dans la misère, dans la dégradation sociale, humaine, urbaine. Toutes les études, même des plus critiques sur la rénovation urbaine, ce ne sera peut-être pas le propos de Renaud Epstein tout à l'heure. Tu l'as coaché sur la partie Europe et pas sur la partie rénovation urbaine. Mais on peut avoir une discussion, mais pour le coup, voilà, moi c'est ce que je tenais à dire. Et franchement, alors au-delà de ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Louis, la focalisation du débat sur les quartiers populaires est symptomatique, franchement, des incapacités aux décideurs publics de l'aménagement que nous sommes de regarder le doigt quand on montre la lune. Parce que c'est comme si on s'exonérait de nos propres responsabilités, et je parle de nos propres responsabilités en sachant que les constructions des grands ensembles dans les années 60-70, j'étais pas né, donc je pouvais d'autant plus en parler. C'est vrai que c'est un certain nombre de nos compatriotes sont dans la merde sociale et sont dans ces quartiers, c'est qu'ils ont totalement choisi d'être dans la merde et d'être dans ces quartiers. C'est vrai que si les migrants aujourd'hui fuient leur pays, c'est qu'ils ont choisi de fuir leur pays. Il faut replacer toujours un certain nombre de mises en œuvre de politiques publiques au regard de l'analyse sociale. Le sujet, c'est donc pour nous, décideurs, d'intégrer, pas à côté, mais dans la société, donc dans les politiques publiques de droit commun et dans leur façon, et dans la façon de peupler les logements sociaux de notre pays. C'est deux sujets sur lesquels je voulais insister, parce que vous l'avez dit, les politiques de droit commun, c'est désormais deux niveaux qui n'existaient pas il y a 40 ans. C'est les politiques de droit commun du niveau régalien de l'État, et en propre, prends l'exemple de l'éducation nationale, parce que c'est peut-être le plus gros morceau, mais effectivement, peut-être aussi à cause de la rareté de l'argent public, il y a une déviance de l'éducation nationale, et qui est, comme la politique de la ville existait, dans certaines classes, des enseignants qui, au lieu de prendre en compte les inégalités sociales d'un certain nombre d'enfants, on dit, attends, toi, de toute façon, tu as le plan de réussite éducative qui est financé par la politique de la ville qui est après l'école, donc je vais continuer à avancer mon cours, je ne vais pas me consacrer à toi, et toi tu verras après dans le dispositif spécifique de la politique de la ville, parce que l'éducation nationale trace sa route sans prendre en compte justement, parce que peut-être il y a le cache-sexe de la politique de la ville qui dit, bon, bah, c'est traité à un autre niveau. Et il y a d'ailleurs la Cour des comptes en 2012 l'a bien dit, que les reculs dans les politiques ministérielles de droit commun en termes d'engagement financier étaient une des problématiques sur lesquelles la politique de la ville avait échoué, parce que justement elle avait reculé dans les politiques régaliennes. Le deuxième niveau du droit commun, c'est la décentralisation, parce que vous en avez un peu parlé sur le niveau intercommunal, mais c'est au-delà de ça. Les niveaux de collectivité et les élus ont pris de plus en plus de place pour définir l'action publique en matière, dans les quartiers populaires. Il est vrai aussi dans un rapport certain de consommation, parce que moi j'ai été frappé quand on a remis à l'ordre du jour la question de la géographie prioritaire et donc de réduire le nombre de quartiers, j'ai été frappé du nombre d'élus qui venaient dans les bureaux du ministre ou de leur conseiller pour demander à y rester. Mais en matière politique de la ville, le vrai sujet et le vrai enjeu, c'est de sortir de la politique de la ville, parce que ça veut dire que son territoire va mieux. Donc si un élu local, son seul objectif, c'est de rester dans la catégorisation, c'est qu'il y a un rapport de consommation de crédit par rapport au dispositif d'État, peut-être. Et d'où revient la question de la rareté de l'argent public et où c'est qu'on met en œuvre des dispositifs pour pallier un certain nombre d'inégalités territoriales. Mais c'est aussi, de la part des élus, un rapport de défiance, et ça on en parlera peut-être avec les conseils citoyens, sur la primauté du délibératif et du système de représentation plutôt que du système de partage. Et l'enjeu du peuplement, parce que je crois que pour aller jusqu'au bout de ce que vous disiez, il y a, à mon avis, il n'y a qu'un moyen pour le voir sur les systèmes d'attribution de logements. Alors oui, c'est une vraie gageure, mais je crois que il faudra passer par là sur et du coup ça répond à la question de Philippe sur l'aménagement à l'utilité démocratique. Je pense que l'attribution des logements sociaux ne pourra se faire qu'à l'échelle intercommunale si on veut casser un certain nombre de logiques de peuplement dans un certain nombre de quartiers, parce qu'il n'est pas normal qu'un certain nombre de quartiers soient, à cause de l'attribution, pas seulement des maires, mais aussi des bailleurs, qui soient monocolores dans certaines cages d'escalier, qui soient mononationalités dans un certain nombre d'unités de logements de quartiers. Et je ne parle pas de la région parisienne, pour le coup, parce qu'il y a une faute à la région parisienne qu'il faut mettre de côté, parce que la solidarité territoriale des voisins de Clichy-Montfermeil, on sait ce que ça a donné. Ça a donné que ces deux villes, elles ont été orphelines dans l'intercommunalité, justement pour ne pas prendre en compte la solidarité territoriale, comme Rémy Viry-Châtillon. En l'occurrence, il a fallu attendre qu'il y ait une obligation d'intégration de la carte intercommunale pour que cette question de comment on aide Viry-Grigny ou comment on aide Clichy et Montfermeil à l'échelle des dispositifs de péréquation intercommunaux et pas simplement des péréquations nationales, se mettent en place. Mais la question du peuplement et de cette question d'attribution des logements intercommunaux, je pense que c'est le vrai enjeu des prochaines années.
Alors, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait méprise sur mon propos. Je ne fais pas partie, moi, des chercheurs critiques ou sarcastiques vis-à-vis de la politique de la ville. Non, j'ai toujours moi cherché à identifier quelle était la plus-value de la politique de la ville. Pas de méprise sur ma position. Ce que j'ai fait dans la frise, c'est dire toi l'état des lieux pour donner des repères. Il aurait fallu la journée pour en parler, mais si en termes d'acquis de la politique de la ville, ça a quand même été le foyer aussi de la transformation de l'action publique. C'est un des lieux où s'est expérimenté l'action territoriale aussi, quand même. Enfin, le partenariat, la transversalité. Les logiques contractuelles. Donc on peut dire qu'il y a une boîte à outils que j'ai rappelé rapidement de la politique de la ville qui a été inventée, en tout cas mise en forme dans la politique de la ville et qui a été diffusée. La philo du chef de projet, c'est aussi une invention de la politique de la ville. Aujourd'hui, elle a diffusé la nécessité à l'échelle d'une collectivité de devoir organiser la transversalité, de fonctionner en mode projet, de travailler à partir du territoire et pas simplement sur des logiques tubulaires, etc. Ça s'est expérimenté dans la politique de la ville et on voit bien là qu'il y a quand même des avancées. Donc la politique de la ville, elle a été aussi un des foyers de la transformation de l'action publique. Elle a eu des effets, on pourrait dire, à côté des quartiers, d'une certaine manière. Pas forcément sur l'objet, mais sur effectivement la conduite de l'action publique. Après, je suis absolument d'accord avec vous sur ce que vous dites du peuplement. Pour moi, un des enjeux aujourd'hui, c'est celui-là. C'est comment, à l'échelle d'une métropole, on organise les conditions d'une solidarité, et ça passe entre autres par le développement de politiques concertées de peuplement. Mais soyons clairs, compliqué, les bailleurs, les collectivités, les réservataires quand on est sur le logement social. Et on sait bien là, pour observer quand même dans un certain nombre de lieux, que ça n'est pas simple, parce que ça suppose effectivement une transparence aussi sur les conditions d'attribution, ça suppose que les bailleurs partagent aussi et définissent des règles du jeu en commun, ça suppose que les collectivités et donc les maires soient convaincus de la nécessité de la solidarité. Or, on voit bien que les maires sont aussi élus au suffrage universel direct pour le moment par les habitants de leur commune, et on voit bien que dans le jeu intercommunal, ils défendent aussi, ou ils se font les porte-parole des intérêts d'eux. Donc on est sur une question complexe, et je le dis, c'est pas simplement un problème de l'action publique, c'est aussi la manière dont une société locale peut consentir à la question de la solidarité. Ça, c'est, il faut le mettre dans le jeu aussi. Il y a que, effectivement, qu'on porte à l'échelle intercommunale la question du peuplement est une manière de mettre un peu de distance avec des enjeux très, très locaux, et c'est la seule manière probablement de raisonner. Mais la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de nos concitoyens et de nous-mêmes, sociétés locales ou urbaines, à consentir à l'exercice de la solidarité, y compris si on l'apprécie comme apportant un certain nombre de contraintes supplémentaires, ça c'est une question vitale. Et c'est pour ça que je le redis, pour moi la politique de la ville, c'est plutôt une politique emblématique qui s'essaie à traiter des enjeux qui traversent aujourd'hui les sociétés développées et qui interrogent leur devenir et la capacité à négocier ou à renégocier un pacte social, parce que c'est de ça dont il s'agit.
Sandra, et puis on suspend.
Oui. Je voulais vous remercier pour cette matinée qui pose une... Enfin, je suis étourdie par la profusion des questions et des réflexions que ça suscite. C'est pas du tout une conclusion que je pense que je serais en capacité d'apporter du tout, mais peut-être si on a le temps, vous poser trois questions. Et au fur et à mesure des débats, il y en a d'autres qui s'ajoutent, mais j'ai dû faire un choix drastique pour qu'il n'y en ait que trois. La première, c'est en parlant de la question de la mixité, vous avez évoqué l'idée de la nécessité d'ouvrir des scènes de débats politiques. Et sur la nécessité de montrer l'intérêt qu'il peut y avoir localement à recréer de la mixité. Et j'aimerais bien que vous donniez des pistes sur le type de récit ou de storytelling, comme on dit en français moderne, comme dit Philippe, qui peut redonner une envie, enfin donner une envie de mixité dans des quartiers de classe moyenne ou des quartiers développés. D'accueillir des populations d'autres profils sociaux et ethniques. Le récit de la mixité. Je pense que en termes de récit, il y a peut-être un autre récit ou un autre niveau sur lequel notre société aurait besoin de travailler. C'est sur cette notion que vous avez introduite sur le passage d'une logique de flux, d'une vision en stock et une vision en flux. Que vous rapprochez de la. Il me semble là, de cette vision très négative qu'on a du ghetto en France, qui n'est pas forcément celle que d'autres approches peuvent avoir, et évidemment qui fait penser au caractère très, très, très stigmatisant du terme de communautarisme en France. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'on peut avoir une vision plus positive de quartiers qui seraient vus comme des quartiers d'accueil et d'hospitalité, comme des quartiers de transit, donc comme des quartiers avec une dimension communautaire assumée, où la communauté s'est vue comme une ressource et pas comme un élément de relégation, de stigmatisation. Donc si, est-ce que ça vous semble souhaitable de faire progresser ce discours dans la société française, de l'assumer, et si on choisit de l'assumer politiquement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de politique publique? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on cesse de faire? Et est-ce qu'au contraire, il y a des choses qu'il faut qu'on se mette à faire? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de politique publique? Et ma troisième question, c'est que je suis restée un peu sur la question scolaire, sur la question des politiques scolaires. Moi, je pense effectivement qu'elle est un point absolument névralgique. Pour avoir cherché un logement toute l'année dernière, la question de la carte scolaire est dans toutes les annonces. Donc, ce n'est pas la peine de faire des études pour se rendre compte que c'est absolument central. Mais, alors, ne raisonnons pas peut-être forcément en termes de ségrégation spatiale, mais quels sont les... On est tous confrontés à l'urgence de cette situation. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu plus loin en termes de préconisations sur cette question scolaire? Alors,
Oui, effectivement, sur la question scolaire, il y a des chercheurs et des chercheuses qui ont beaucoup travaillé, Marco Huberti, Agnès Van Ganten, bon, et puis bon, Dupé et d'autres. Moi, je dirais deux choses, parce qu'on touche à la question des représentations scolaires. C'est-à-dire, plus on est dans une société d'insécurisation sociale, et dans une société, la nôtre, où on pense qu'on s'en tire bien, où on s'en tire mieux quand on a des diplômes, plus on comprend bien la focalisation sur les conditions assurées à ces enfants, les conditions d'une réussite scolaire. Donc il n'y a pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Au fond, plus effectivement la société devient difficile, plus le souci très largement partagé dans toutes les couches de la société française, y compris auprès chez les habitants des quartiers, c'est faire en sorte que ces enfants aient le plus de ressources pour s'en tirer au mieux. Et parmi ces ressources-là, il y a le diplôme. Ça, c'est indéniable. Bon. Donc, ceci dit, après, c'est quelle représentation on se fait des conditions de la réussite scolaire. Et là, il y a une espèce de hiatus entre la représentation qu'on a et puis la réalité. C'est-à-dire, est-ce qu'être dans un collège mixte, c'est un élément qui fait que son enfant réussit moins. On sait aujourd'hui, il y a des données objectives qui disent non. Voilà, qui disent les situations de mixité scolaire sont des situations favorables, en particulier pour les enfants moyens. Alors on imagine tous qu'on a, chacun a des petits génies chez lui. Ben, nos enfants, les nôtres sont des génies, donc ils doivent avoir le meilleur environnement. Donc bien sûr que le fameux collège qui permet d'entrer dans le fameux lycée, qui permet d'entrer, bon voilà, hein, vous voyez bien la chaîne. Bon, tout le monde a ça dans la tête. Objectivement, voilà, tous nos enfants ne sont pas destinés à être le premier de l'école, enfin de la classe. Donc pour tous les enfants qui ne sont pas voilà, le petit génie scolaire, tous nos enfants sont des génies, voilà, ils ne sont pas forcément des génies scolaires. Mais dans une société qui survalorise quand même la réussite scolaire au détriment d'autres formes d'intelligence, mais bon, ça c'est un autre débat, on comprend bien cette focalisation sur l'école qui permet de, sauf qu'on sait que pour les enfants, j'allais dire ordinaires, voilà, être dans une situation de collège mixte, c'est plus favorable pour la réussite que d'être dans ces fameux collèges voilà, qui permettent l'accès à... Comment on donne à voir cette réalité-là? Bon, là, on voit bien que la question de la représentation sociale est extrêmement forte. Alors, sur l'autre question que vous posez, le récit heureux de la mixité, je pense que ça suppose de revenir sur aussi qui sont les émigrés d'aujourd'hui. Parce que moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on reste sur des images, des représentations de l'immigration qui datent des années 50. C'est-à-dire quand les immigrés qui venaient là, c'était les travailleurs, les migrants venant des zones rurales, illettrés, etc. Je me rappelle, moi, le choc qu'a été les résultats de l'analyse sociologique faite au moment de la jungle de Calais, quand on a demandé, quand l'État a demandé à un chercheur d'aller voir qui étaient les gens à Calais, et qui a montré que non, c'est pas des gens dépourvus de ressources, qui sont illettrés, etc. Non, l'immigration généralement, ceux qui partent, c'est ceux qui ont des ressources, qui portent d'ailleurs le projet d'une famille restée au pays. Là, on est sur des questions de représentation. Les émigrés qui arrivent aujourd'hui, bon, de Syrie, d'Irak et d'ailleurs, c'est des gens qui sont comme nous, c'est des classes moyennes formées, etc. Les autres, ils ne sont pas là, hein. Ils ne sont pas aux portes de l'Europe, ils sont dans les camps de Jordanie ou dans les camps de Turquie, c'est-à-dire ceux qui sont aux portes de l'Europe. Donc comment on donne une juste représentation de qui sont les émigrés aujourd'hui, voilà. Dans les quartiers, moi je l'ai vu, À propos de l'immigration algérienne, les Algériens qui sont arrivés dans les années 50, travailleurs algériens, ils venaient effectivement, entre guillemets, du bled, des campagnes, illettrés, paysans pauvres, etc. Dans les années 80, ceux qui sont arrivés d'Algérie, mais c'était des toubibs, des profs, etc. C'était bon, un moment particulier de l'histoire de l'Algérie, la montée du fils, etc. Et ils continuaient à être être figés dans la représentation de l'immigration. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'ils étaient les premiers à vouloir quitter les quartiers. Moi, je me souviens d'entretien où ils disaient « mais nous ne sommes pas des émigrés ». C'est-à-dire des Algériens qui disaient « nous ne sommes pas des émigrés » et ça voulait dire « nous ne sommes pas ceux que vous croyez ». Donc comment, aujourd'hui, dans la société française, on peut dire « l'immigration est une ressource, là, pour le moment, elle est une menace ». Et ce qui est en jeu là, c'est la question du rapport à l'altérité. Et quand même, si vous avez écouté les infos hier au soir, ce qui est dit de la Suède, qui a accueilli 116 000 réfugiés, il y a des analyses qui viennent d'être faites par des économistes qui montrent que dans le taux de croissance de la Suède, 4,5, il y a une responsabilité, pour le coup, qui est due à l'accueil de ces émigrés, parce qu'ils consomment, parce qu'ils ont des compétences, qu'ils ont des compétences, et que le pays, en l'occurrence, a su leur faire place. Donc, comment, la question de la mixité, elle est là, c'est-à-dire comment on passe d'un registre où on est sur une histoire qui est l'autre dangereux, ou l'autre comme une figure qui menace, parce qu'il est trop différent, etc., etc., et puis qu'il n'a pas bon, à une histoire où on peut dire ils ont des ressources, c'est-à-dire l'immigration, elle est source, effectivement, d'enrichissement. C'est ça. Et on voit bien là, encore une fois, le poids de l'histoire et comment faire évoluer la représentation de l'immigration. Je suis frappée dans les politiques publiques, ça, je l'avais déjà raconté, je l'ai dit, le quartier du Mirail est situé aujourd'hui géographiquement à 200 mètres à vol d'oiseau d'un des grands pôles de développement de la métropole toulousaine, il s'appelle l'Oncopole, qui est ce projet qui vient remplacer l'usine AZF qui a explosé et dévasté ce territoire-là. Donc on est sur un territoire qui accumule les labos de recherche, etc. En toute bonne foi, les acteurs de la politique de la ville se sont posé la question de la manière dont on pouvait établir une connexion en matière d'emploi entre les habitants des quartiers du Mirail et l'Oncopole, qui encore une fois a 300 mètres. Effet des représentations. Quand il s'agissait d'hommes, métiers de la sécurité, et femmes, techniciennes de surface. Alors que, je l'ai dit, l'immigration algérienne aujourd'hui installée dans les quartiers du Mirail, c'est, et l'immigration venue des pays d'Afrique noire, mais c'est plus du tout ça. C'est des infirmiers, c'est des profs, etc. Donc comment on fait là? Donc on est sur des questions de ce type. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, que dans les quartiers, il n'y a pas des gens sans qualification, sans formation, etc. Mais là aussi, il y a un certain nombre de travaux qui montrent comment se jouent les trajectoires de génération en génération. C'est-à-dire comment les enfants de ceux qui sont des profs, etc., arrivant dans un pays, dans un quartier, etc., ne reconstitue pas forcément le même type de ressources. Donc il faut pouvoir le lire aussi de manière longitudinale et à l'échelle d'histoire familiale.
Bon, on voit bien qu'on pourrait continuer longtemps. D'ailleurs, on a 3 jours pour discuter de tout ça. Donc je propose qu'on s'arrête et qu'on remercie beaucoup Marie-Christine pour avoir tenu la discussion.